Radio Okapi.
Le journal, c'est avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour et bienvenue dans ce journal d'information sur Radio Okapi, dont voici l'ossature. Territoire de Rutshuru, la peur et la souffrance gagnent du terrain. L'insécurité ne montre aucun signe d'accalmie. Des familles entières fuient sous pression des groupes armés, abandonnent leurs terres, leurs biens, aggravant la crise humanitaire dans le Nord Kivu. Tanganyika, le peuple autochtone a l'honneur au village Kaseya. À l'occasion de la journée internationale des peuples autochtones, un consortium d'acteurs locaux a célébré les savoir-faire des communautés pygmées dans les territoires de Kongolo. Décentralisation à RDC, bienvenue Bolongue, appel à une gouvernance plus proche des citoyens. Des retours des États-Unis, les députés provinciaux de la Chopo partagent les leçons tirées du programme IVLP et plaident pour une mise en œuvre effective de la décentralisation dans les provinces. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bon après-midi à tous. Nous ouvrons ce journal avec la situation préoccupante dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, où l'insécurité ne montre aucun signe d'accalmie. Cette semaine encore, des familles du groupement Mutanda dans la chefferie de Bwito ont été forcées de fuir leur village. Des rebelles notamment du M23, des Wazalendo et des FDLR leur auraient donné 5 jours pour quitter la zone qu'ils qualifient d'opérationnelle. Ces déplacés ont trouvé refuge à Kibirizi, Nyanzale, Bwalanda et Kikuku, abandonnant leurs champs et se retrouvant sans abri, livrés à eux-mêmes. Face à cette détresse, un notable local, Isaac Kibira, lance un cri d'alarme. Il appelle les groupes armés au respect des droits humains et exhorte la communauté internationale à agir. On écoute Isaac Kibira.
Cette population n'a aucune assistance humanitaire. Le gouvernement qui vient de sortir, qu'il ne soit pas comme les gouvernements souminois 1, face à la souffrance que traverse la population de Rutshuru dans la partie de la chefferie de Bwito, là où on tue les gens sans aucune réaction de la communauté internationale pour demander aux belligérants de respecter les droits humains et de protéger les populations. Ce mercredi 6 août 2025, dans l'usine de Somikivu, les autodéfenses de M23 qui sont venus de Nyanzale, vers 14h, ils ont tué 3 personnes. Voilà la violation grave encore des droits humains que nous sommes en train toujours de décrier et demander aux USA, à la communauté internationale, à l'Union européenne, à l'UA, au CIGR et au gouvernement congolais de pouvoir faire tous les moyens là où on est en train d'aller dans les pourparlers de Doha, de Washington, de songer à la population de Rutshuru qui subit une souffrance sans précédent infligé par les M23 et les autres groupes armés dans la zone et voir comment cette population innocente pouvait être protégée par les belligérants qui sont en train de contrôler la zone.
Nord Kivu encore, une attaque attribuée aux rebelles ADF a visé un véhicule de transport en commun samedi soir sur l'axe Eringeti-Kainama dans les territoires de Beni. Le véhicule qui assurait la liaison entre Butembo et Bunia a été incendié et ses passagers sont portés disparus. Les forces armées de la RDC, FARDC et ougandaise UPDF se sont rapidement déployées sur place pour sécuriser la zone. Les détails avec Marc Marofimbo.
L'attaque s'est produite en plein milieu de la forêt, à une vingtaine de kilomètres du centre commercial d'Eringeti, une localité située à 60 kilomètres de la ville de Beni. Selon la société civile locale, les véhicules transportaient à la fois des passagers et des marchandises. La voiture et son chargement ont été entièrement incendiés par les assaillants et toutes les personnes à bord sont portées disparues. Cet incident met fin à plus de 6 mois d'accalmie sur cette tronçon routier, reliant la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri en passant par les territoires d'Irumu. Alertées, les forces conjointes FARDC et UPDF se sont déployés sur les lieux de l'incident pour tenter de récupérer les otages et rétablir la circulation. La société civile d'Eringeti s'inquiète toutefois de l'absence de troupes dans plusieurs localités de cet axe après les opérations de traque des ADF menées il y a 6 mois, opération qui avait poussé ces rebelles à se replier vers le nord-ouest du territoire de Beni ainsi que vers certaines zones des territoires d'Irumu et de Mambasa à Ituri. Nos efforts pour obtenir la réaction du porte-parole des opérations militaires dans la région n'ont pas abouti. Beni, Marc Marofimbo, Bilembo, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ce temps, un accident tragique s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, près de la rivière Ngolou, entre Lapa et Nombe, dans la chefferie de Walendubindi, territoire d'Irumu. Deux personnes ont perdu la vie, dont un milicien présumé du groupe FRPI qui transportait son épouse à Monto. Celle-ci est décédée après avoir été conduite dans une structure médicale locale. Leur moto aurait été percutée par un camion en provenance de Boga en route vers Bounia. En représailles, des miliciens ont intercepté le chauffeur, l'ont torturé, tiré des coups de feu en l'air et incendié les véhicules. Témoignage recueilli sur place.
Cette moto qui montait du village Tchitsa, le taximen, on dirait, était FRPI avec sa femme sur cette moto. Alors ce véhicule avait cogné cette moto et immédiatement sur place. Le FRPI était mort sur place et sa femme était décédée à l'hôpital. Alors cela avait marqué une panique à ce niveau-là. Le chauffeur d'abord était arrêté, malmené, maltraité, et le véhicule était brûlé avec toutes choses qui s'y trouvent. Cela a connu un dégât terrible, un dégât matériel au niveau de la montagne Lorobi. Cela a paniqué la population. Quand même, il y a un peu de calme. Voilà la situation qui s'est déroulée entre le village Nombe et la Gabo dans le groupement Tsirutsirutsu.
Nous le disions en titre, dans le Tanganyika, la journée internationale du peuple autochtone a été célébrée ce samedi au village Kaseya, dans le secteur de Baluba, territoire du Kongolo. L'événement a été organisé par un consortium composé de l'Université de Lubumbashi, de la Confédération nationale des producteurs du Congo et de Caritas Congo. Objectif, mettre en valeur les savoir-faire des communautés pygmées et promouvoir leur inclusion dans le développement local. Le point avec Paul Munanga.
Cette activité est circonscrite dans le cadre du programme de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour faciliter l'accès à la terre afin d'avoir un développement durable et égal, recapté en sigle. Les organisateurs ont visité les productions locales des peuples autochtones, fruits de leur savoir-faire et l'une de leurs sources de revenus. Miki Bikiri est chef de programme au sein de Caritas Congo.
Avec le savoir-faire des peuples autochtones, ils peuvent accéder à certains revenus grâce à leur production locale. Nous avons vu, ils nous ont démontré la capacité qu'ils ont à faire à travers des arbres, des racines, certains produits médicinaux. Et c'est vraiment une très belle démonstration que nous avons eue aujourd'hui. Ainsi, nous les encourageons vraiment à valoriser cela, car c'est une source de revenus non négligeable pour eux.
Banza Motema est un peuple autochtone pygmée. Il vit au village Xavier. Il témoigne comment Caritas Congo les a aidés à évoluer.
Caritas
Congo nous a sortis de la brousse et aujourd'hui nous devenons présentables devant les autres communautés. Nous n'étions pas en train de vivre dans des maisons en tôle. Grâce à Caritas, nous cultivons les champs, nous élevons les poules, les canards et puis cette organisation intervient en payant les frais scolaires de nos enfants. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans le même registre, à l'occasion de la journée internationale du peuple autochtone, plusieurs ONG engagées dans la défense de leurs droits saluent quelques avancées légales en RDC, mais elles restent préoccupées par la situation dramatique que vivent ces communautés, notamment dans l'est du pays. Des centaines de familles autochtones vivent encore dans des conditions précaires, sans accès aux services de base. L'ONG Foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse, FDAPID, appelle les autorités à passer de la parole aux actes en appliquant concrètement la loi votée en faveur de ces peuples. Vicar Andy Batundi, coordonnateur national de l'ONG, s'exprime au micro de Denise Lukeso Mapanda.
Ce qui a félicité, c'est que il y a des avancées sur le plan légal, parce que la RDC dispose d'une loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones, pygmées. Et donc, à travers cette journée, nous demandons aux dirigeants de veiller sur la mise en œuvre effective de la dite loi, mais aussi de songer aux peuples autochtones qui vivent dans les zones en insécurité totale, dans les zones où ils ne peuvent pas jouir de leurs droits, ils n'ont pas accès à la forêt. Certains sont en train de perdre leur terre et la vie devient de plus en plus compliquée pour les peuples autochtones. Donc, il y a nécessité pour tous les décideurs du monde de se mobiliser afin d'apporter des réponses durables aux besoins des peuples autochtones.
Au sud Kivu, l'exploitation illégale de l'or et du coltan dans la chaîne de Mitumba alimente l'insécurité dans les territoires de Fizi. L'administrateur du territoire Sami Badibanga pointe du doigt les miliciens Twagineho et leurs alliés du groupe Red Tabara qu'ils accusent de mener une guerre injustifiée pour contrôler ces ressources. Selon lui, les violences perpétrées par ces groupes armés ont provoqué les déplacements de plus de 100 000 personnes dans les hauts et moyens plateaux, aujourd'hui privés d'assistance humanitaire. Sami Badibanga s'est exprimé au téléphone avec Ronéline Tibonera.
Ces actes de violence contre ma population de Fizi et par le Red Tabara et Tucaneo pour M23 constituent une violation flagrante des droits humains. Actuellement, ces déplacés sont estimés à environ 100 000 personnes, hommes, femmes et enfants, victimes de tous ces affrontements violents imposés par ces groupes armés, Tucaneo et Red Tabara Pro M23. Nous félicitons certains partenaires humanitaires qui ont déjà répondu à l'appel de l'autorité territoriale. Et les équipes d'identification et de ciblage sont opérationnelles sur terrain. Ces aides, une fois données pour assister à se déplacer, soulageront tant soit peu la population des territoires sinistrés et défisés.
Par ailleurs, à Miabi, dans le Kasaï oriental, des élèves de l'Institut d'Ipakadez ont mis le feu à certaines salles de classe ce vendredi après avoir échoué à l'examen d'État édition 2025. L'établissement est situé dans les secteurs de Chilondomerode, province éducationnelle Kasaï oriental 2. La coordination territoriale de la société civile du Congo, Sosiko, condamne fermement ces actes. Son président, Christopher Kawayachipamba, appelle les autorités à traduire les auteurs en justice. Il s'est exprimé au téléphone avec Esther Ndalafina.
La société civile du Congo Sosiko Coordination de Miabi exprime sa profonde indignation face aux actes de vandalisme à l'Institut d'Ipokadez où les élèves finalistes frustrés par leur échec à l'examen d'État 2025 ont incendié les salles de classe, réduisant en cendres un patrimoine éducatif. Ces actes sont inacceptables, antipédagogiques et criminels. Ils traduisent une perte de repères, une absence de culture de résilience face à l'échec. L'éducation est certes un droit fondamental et un pilier de développement. Détruire les infrastructures scolaires, c'est hypothéquer l'avenir de toute une génération. Au regard de ce qui précède, la Sosiko exige que les auteurs soient identifiés et traduits en justice. Elle appelle également les autorités éducatives à renforcer l'encadrement psychologique des élèves, surtout en période post-examen, car l'échec scolaire ne doit jamais être une excuse pour la violence.
À Lubumbashi, le processus de délivrance des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce avance bien. Le directeur général adjoint de la Direction générale de recettes administratives et judiciaires domaniales et de participation des GERAD, Jean Kamwena Lubamba, a dressé le bilan à mi-parcours ce vendredi lors du lancement officiel dans la ville. Depuis le début de l'opération en novembre 2024 à Kinshasa, plus de 11 milliards de francs congolais ont été mobilisés. Et pour l'année 2025, les prévisions atteignent 115 milliards de francs congolais. Jean Kamwena s'est confié à Paul Mounanga.
Il y a lieu de noter qu'au 31 juillet 2025, 53 841 permis de conduire ont été délivrés, dont 49 746 à Kinshasa et 4 095 au Congo central. Ce qui représente en ce jour une somme globale de 11 783 762 000. Francs congolais. À ce sujet, et qui vient de relever que les assignations annuelles pour cet acte générateur des recettes du trésor public, acte dénommé droit de délivrance d'un permis de conduire national et international ou son duplicata, s'élève pour l'année 2025 à 115 225 500 000 francs congolais. Et que donc, sur les 115 milliards, nous avons déjà réalisé au total 11 500 millions. Sur ce, nous espérons que le lancement de la délivrance des permis de conduire à Lubumbashi et très bientôt à Kolwezi permettront d'approcher ces assignations budgétaires de 115 milliards de francs congolais.
À Mwanda, dans le Congo central, avant d'aller plus loin, 200 jeunes viennent de terminer une formation axée sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière et le leadership. La cérémonie de clôture a eu lieu ce samedi. Cette initiative est portée par DRC Enterprise Development avec le soutien financier de l'ONG Junior Achievement et en partenariat avec la société pétrolière Perenco. Objectif, donner à ces jeunes les outils nécessaires pour créer leurs propres entreprises, devenir autonomes et lutter contre l'oisivité, souvent source d'insécurité dans cette cité côtière.
Actualité internationale.
En Guinée, la crise des liquidités ne semble pas se résorber. Depuis plusieurs mois, les banques primaires connaissent une forte baisse des dépôts d'argent dans leurs caisses. Une situation qui perdure et qui touche désormais les petits commerçants et même les simples détenteurs des comptes bancaires. Désormais, leurs retraits sont plafonnés.
L'invité.
La décentralisation, c'est plus qu'un mot à la mode, c'est une nécessité pour mieux gérer nos provinces. C'est en tout cas ce que pense le député provincial Bienvenu Bolongué Limoté. Il l'a dit haut et fort samedi à Kisangani lors d'une séance de restitution. Il revenait tout juste d'un séjour aux États-Unis dans le cadre du programme IVLP, un programme américain de leadership pour les visiteurs internationaux. Alors, qu'a-t-il appris là-bas et surtout, que peut-on en tirer pour améliorer de la gouvernance ici chez nous en RDC. Bienvenue Bolongué, répond aux questions de Jacques Moukonkole.
Bienvenue Bolongué, bonjour.
Oui, merci, bonjour.
Vous venez de procéder à la restitution de votre mission aux États-Unis d'Amérique. En quoi a-t-elle consisté?
Cette mission a consisté d'échanger avec les homologues américains sur la transparence et la responsabilité au sein des institutions. Voilà pourquoi, à peine rentrée, nous devrions partager cette expérience avec les animateurs des institutions ici dans la province de la Tchopo, et c'est ça ce qui venait d'être fait.
Pendant votre séjour aux États-Unis, vous avez visité différents sites. Qu'est-ce que cela vous inspire?
D'abord, vous savez, par rapport au mode de gouvernance, les États-Unis d'Amérique, les citoyens américains a constaté que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays continent. Il sera difficile de diriger un État continent à partir d'un gouvernement au niveau central. Voilà pourquoi ils ont opté pour le fédéralisme comme mode de gouvernance.
La RDC est aussi un pays continent, mais chez nous avons opté pour la décentralisation.
Oui, imaginez 2 345 000 km². C'est un pays continent et nous avons comme mode de gouvernance le régionalisme, la décentralisation. Nous pensons qu'avec les modèles que nous avons acquis aux États-Unis en rapport avec le mode de gouvernance, nous pouvons aussi rendre effective la décentralisation dans notre pays pour que nous puissions arriver à bien assurer la gouvernance de nos provinces et de notre pays.
Et par rapport à la transparence, quel est votre constat?
Les États-Unis d'Amérique font de la transparence et la responsabilité le cheval de bataille dans tous les secteurs, que ce soit dans les secteurs des finances, dans les secteurs de l'administration, dans les secteurs de l'armée, de la sécurité. C'est la transparence et la responsabilité que le cheval des batailles. Nous pensons que ces modèles-là, nous pouvons aussi l'intégrer ici chez nous, en République démocratique du Congo, plus pour que nous puissions arriver au développement.
Concrètement, comment vous comptez vous y prendre?
Concrètement, nous pensons d'abord échanger avec les autorités, c'est ça dans ces débriefs que nous venons de faire aujourd'hui. Nous comptons initier des cafés citoyens où nous devons échanger, partager avec la population sur la transparence et la redevabilité, la responsabilité. Mais aussi, on doit avoir des cafés dites des consultations. La population nous donne un peu des idées par rapport à ça. Vous savez, en matière par exemple de finances, la population n'est pas informée de tout ce qui est des finances de la province. Or, le gouvernement ne doit pas fonctionner en boîte noire. C'est la population qui fait fonctionner les institutions à travers les différentes taxes. Et cette population doit normalement être prête aussi à recevoir les informations de la part des institutions. Nous comptons aussi avec les hommes des médias pour que nous puissions atteindre la majorité de l'auditoire possible à travers des émissions interactives, partager des informations avec la population et aussi sensibiliser les journalistes pour qu'ils puissent migrer plus vers le journalisme d'investigation. Et lorsque les journalistes sont informés, lorsque le journaliste est outillé avec des matières, facilement il va partager avec la population. Et c'est de cette manière-là que nous comptons mener pour que nous puissions tant soit peu rendre transparente la gestion de la chose publique.
Vous savez que les autorités en cette matière, les autorités ne communiquent pas. Elles sont réticentes par rapport à ces informations-là. Les journalistes risquent même leur vie.
Effectivement, voilà pourquoi notre cheval de bataille, c'est échanger. Échanger avec ces autorités. Vous savez, lorsque le journaliste est informé, ça rend facile la gestion. Et lorsque la population est informée de la gestion de la chose publique, elle va s'approprier la gouvernance, la gestion et le développement sera facile. Si la population n'est pas informée, c'est difficile que cette population puisse s'approprier les actions du gouvernement. Et à force de communiquer, communication pour le changement social de comportement, le changement n'a jamais été par baguette magique, c'est un processus. Nous devons tous nous engager, les journalistes, la société civile et les décideurs aussi, les exécutifs. Nous devons tous nous engager pour que nous puissions faire de la transparence et de la responsabilité.
Pour terminer, quelle est la grande leçon que vous tirez de votre séjour aux États-Unis?
La grande leçon, c'est que les citoyens américains aiment son pays. Vraiment, nous devons aimer la République démocratique du Congo. Nous devons aimer notre province. Nous devons nous engager pour que nous puissions booster le développement comme font les Américains.
Bienvenue Bolongué, merci.
À moi de vous remercier.
C'était notre invité, le député provincial bienvenu Bolongué Limoté, qui s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Et voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Radio Kapi, coordonnée et supervisée par Jean Gandou Kabongo et mise en onde par Jean-Claude Nsialamanama Kengonsoalou. Ces informations peuvent être suivies sur nos plateformes numériques et sur notre site internet www.radiokapi.net. Passez un bon week-end chez vous.